Entre-temps, entre nous, un partage de réflexions avec le doyen Philippe Capel-Dumont. Vous êtes sur Radio Cité Genève 92.2 en compagnie du doyen Philippe Capel-Dumont, doyen honoraire de la faculté de philosophie de l'Institut catholique de Paris, professeur des universités, professeur de philosophie à l'Université de Strasbourg. Philippe, il y a une question que j'ai envie de vous poser. Elle est dans l'air du temps. Elle agite beaucoup nos contemporains. Elle agite nos contemporains en Suisse, en France, en Europe, mais partout dans le monde également. Il s'agit de l'identité. Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'identité ?
L'identité est un mot construit sur le latin « idem », hein, le même. Et le problème précisément de l'identité, c'est qu'elle doit à la fois dire le même et l'autre. Et voilà, nous sommes au cœur du problème. Lorsque une nation se construit dans son identité, elle doit dire quelque chose qui ressemble au même et en même temps intégrer l'altérité. L'altérité en son sein et l'altérité vis-à-vis des autres. Donc on est devant une question difficile. Je fais simplement observer que cette question de l'identité telle qu'elle est posée aujourd'hui, et de fait elle est nouvelle, l'identité des nations notamment, mais la question de l'identité est un vieux problème philosophique, c'est un ancien problème. Même Lévi-Strauss, qui s'intéressait aux sociétés sud-américaines en général, a fait un séminaire sur l'identité dans les années 70, se demandant au fond, est-ce qu'il y a une identité humaine ? Lorsqu'on regarde l'ensemble des cultures, l'histoire des cultures, la diversité des ritualités, des règles, des critères sociaux de comportement, est-ce qu'il y a malgré tout une nature humaine, une identité humaine ? Donc c'est une question difficile qu'on pose aussi en sociologie sur la question du sujet. Est-ce qu'il y a un sujet humain ? Qu'est-ce que c'est par rapport à l'animalité ? Par rapport à la technique, est-ce qu'on peut préserver un sujet ? Demain, avec l'envahissement des nanotechnologies, de la manipulation génétique, on se demande aujourd'hui, mais est-ce qu'on va maintenir quelque chose qui ressemblerait à l'identité humaine ? Donc, que se passe-t-il ? Eh bien, le problème, c'est de maintenir le même alors qu'on ne peut pas résister au temps. On ne peut pas résister à la métamorphose, on ne peut pas résister à la transformation, au progrès technique et au progrès aussi de l'environnement dans lequel l'homme se meut, au sein duquel il se meut et se développe. On ne peut pas résister à cela. Donc, les nations elles-mêmes se posent cette question. Comment maintenir, au fond, une identité, c'est-à-dire un même, rapporté à l'histoire et en même temps gérer la nouveauté du temps ? Donc, c'est problème.
L'identité pour une nation, ce serait quoi ? Une sorte d'étiquette qui serait posée sur l'ensemble, sur le front de tous ces ressortissants ? Qu'est-ce que ça serait l'identité pour un pays ?
La difficulté de la question tient à ce qu'on emploie le mot nation pour désigner aussi bien les nations européennes, nations arabes, etc. Or, on peut défendre l'idée que c'est le christianisme qui a fait les nations en Europe, si vous voulez. La nation en Europe, c'est le christianisme indéniablement marqué par le judaïsme, bien évidemment, pour partie d'islam, mais essentiellement, qu'on le veuille ou non, que cela fasse plaisir ou non, par la tradition du christianisme. Alors, pourquoi dis-je cela ? Non pas pour des raisons apologétiques, mais parce que c'est un fait d'histoire, et que, du même coup, les nations européennes, et l'Europe d'ailleurs, se sont toujours élaborées dans le souci de l'altérité. Il était frappant que les nations européennes sont des nations d'universalité. Elles ne sont pas repliées sur elles-mêmes. Donc, l'identité de la nation en Europe, c'est toujours à la fois le même et l'autre. Et le véritable problème qui se pose aujourd'hui pour le débat entre les nations, c'est comment, alors que l'autre est envahissant, si je puis dire, au sens très large du terme, alors que l'autre ne fait que se dire dans la fragmentation permanente, comment maintenir le même ? Et donc, il y a cet sentiment que je trouve légitime, cet réflexe légitime, en tout cas inévitable, qui fait que tout le monde se dit « mais qui sommes-nous ? Que pouvons-nous préserver de ce que nous sommes ? Ou alors devons-nous aller dans la fragmentation ?» Alors, ce point est décisif et je voudrais, si vous voulez, faire une distinction entre deux mots que l'on confond en permanence. C'est la différence et la fragmentation. Nous vivons dans un monde fragmenté. Et le monde fragmenté, c'est précisément celui qui n'a pas de principe d'unité. Vivre dans la différence, c'est précisément vivre une identité. Car celui qui est différent se réfère à une identité, ce par quoi il est différent. Et donc, nous ne sommes pas aujourd'hui dans la différence, nous sommes dans la fragmentation. Et le problème étant de trouver un principe d'unité qui soit quoi ? Eh bien, un principe de reconnaissance. Et nous n'avons pas de principe de reconnaissance. Donc, les nations vivent dans une fragmentation et non pas dans la différence. Moi, je regrette pour ma part qui était déclaré dans la bouche même de certains responsables politiques que nous étions dans un espace d'identité qui était fait d'un conglomérat d'identités différentes. Je regrette, c'est très faible, c'est même non seulement très faible, mais dangereux.
Oui, parce que là, on a l'impression d'une mosaïque de peuples qui se contentent de vivre côte à côte sans principe de réunion.
Et c'est même très flatteur pour le mot mosaïque, parce que les mosaïques sont généralement très belles. Là, on est plutôt dans la kaléidoscopie totale, c'est-à-dire on n'a pas du tout de relation, de rapport, on est dans la ghettoisation, on pense à ce qui se passe en Angleterre, qui quand même fait très peur, où chaque couleur revendique son absoluité, si je puis dire, là pour le coup, et pas au sens métaphorique, n'est-ce pas ?
C'est ce qu'on appelle le communautarisme.
Exactement. Et là, on est dans la fragmentation, précisément. Vous exprimez exactement la chose, et très très bien. Il s'agit en effet de la question du communautarisme, et il me semble que si les sociétés se communautarisent, elles se fragmentent, et donc perdent la différence, perdent le sens de la différence, et donc perdent toute possibilité d'unité. Je ne dis pas d'unification, je ne dis pas d'uniformisation, évidemment, mais perte toute possibilité d'unification, encore une fois, dont le chiffre, dont, me semble-t-il, le véritable concept, c'est celui de reconnaissance. C'est-à-dire, reconnaître l'autre, ça veut dire que l'autre est autre, c'est pas moi. C'est pas quand je reconnais quelqu'un, je ne suis pas l'autre, mais je le reconnais en tant qu'entité. Et puis même, je peux d'ailleurs, comme on dit d'ailleurs quelquefois en signe, des reconnaissances de dette, n'est-ce pas ? Je reconnais l'autre parce que je lui dois quelque chose, mais c'est moi-même, n'est-ce pas ? Ce n'est pas parce que je dois quelque chose à la culture grecque ou même peut-être aussi à la culture africaine que je suis africain.
Est-ce qu'il n'y a pas là une notion de respect ?
Oui, certainement. D'ailleurs, c'est un très beau mot, le mot respect, c'est regarder, se regarder dans la distance et en même temps garder cette distance, mais en même temps jouer le jeu du voir l'autre, de lui donner toute la considération qu'il mérite. Sans aucun doute, c'est un mot qui mérite aussi sans doute d'être réhabilité dans les fonctionnements sociaux.
Alors, nous sommes donc en 2010, aussi bien en Suisse qu'en France, cette identité fait problème. Plus exactement, les peuples se posent la question de savoir qui ils sont et comment ils vont continuer à être ce qu'ils étaient. Qu'est-ce qu'on va faire ?
La première des initiatives à prendre, c'est de nous réapproprier notre mémoire. Je ne dis pas simplement notre histoire, ce qui serait déjà pas mal, mais notre mémoire. C'est-à-dire que nous sommes héritiers d'abord. Et nous sortons d'une époque très récente où ce qu'il fallait, c'était favoriser l'ex nihilo, le créatif pur, n'est-ce pas ? L'absence de mémoire en a payé gravement la facture. Nous sommes dans ce paradigme-là. Et donc, il ne s'agit pas de Philippendée 68, etc. Ce n'est pas mon objet. Mais reconnaissons que, à partir des années 50-60, si vous voulez, nous avons vécu sous un mode de l'absolutisation du futur, de la nouveauté, parce qu'il y a eu probablement la guerre, parce qu'il y a eu Auschwitz, parce qu'il fallait sans doute se détourner son regard, parce que la société de consommation, en fait, ce qu'on appelait la société de consommation, où il y avait encore beaucoup de pauvres à l'époque, quand on était dans les années 50-60, ce qu'on appelait ainsi, ne répondait pas à ce que pouvait être, au fond, une vie sociale. Et donc, l'option idéologique, si vous voulez, explicite ou pas, consistait à se tourner vers un futur. Et aujourd'hui, c'est terminé. Comme je crois l'avoir déjà dit ici, aujourd'hui, nous sommes plutôt dans un présent fragmenté. Nous ne savons plus très bien. Il n'y a plus de futur. Il n'y a pas de passé. Donc, il y a une espèce d'instantanéisme, de présent. Et donc, première chose, nous réapproprier une mémoire. Nous ne pourrons pas nous tourner vers un futur si nous ne savons pas d'où nous venons. Et sur ce point précis, il faut absolument que nous fassions aussi notre examen de conscience intellectuelle, n'est-ce pas ? Et ne pas nous arrêter simplement à la philosophie des Lumières, comme on le fait très souvent.
Philippe, est-ce que vous faites allusion, là, à la lacune dans l'enseignement de l'histoire ?
Oui, indéniablement. C'est-à-dire que nous refusons de voir, encore maintenant, nous refusons de voir que nous sommes des héritiers de traditions complexes du monde grec, de la philosophie, du christianisme qui a structuré pour le meilleur, à certains moments de façon négative, mais pour le meilleur quand même, a structuré notre espace de civilisation, lui a donné ses plus grandes richesses. Et donc nous devons faire de l'histoire, non pas à courte vue, si vous voulez, non pas de façon idéologique, mais nous devons nous réapproprier calmement cette mémoire dont je suis en train de parler. Alors si nous le faisons correctement, nous serons d'autant plus libérés pour retenir les véritables critères de vie en commun, n'est-ce pas ? Alors sans aucun doute, il y a un véritable travail d'histoire. Moi je suis très frappé, j'étais l'autre jour dans un colloque avec Max Gallo, et le sujet était l'histoire, justement. J'étais très, très surpris. Vous allez comprendre pourquoi j'emploie le mot « surpris ». Parce que à la question de savoir ce qu'est l'histoire, Max Gallo, qui est un historien connu de l'Académie française, a déclaré cette chose qui, pour moi, est une évidence depuis très longtemps. Mais le fait qu'il le dise donne un poids singulier, si vous voulez, à l'affirmation. considérant que finalement, je le cite de mémoire, si je puis dire, ce qui pour moi fait l'histoire, c'est la loi de la surprise. C'est-à-dire quelque chose peut arriver, il y a des conditions évidemment réunies, mais l'histoire, c'est aussi la surprise. Quelque chose peut advenir. Et je crains qu'aujourd'hui, nous n'ayons plus le sens de la surprise, précisément. Ce qui peut advenir, on ne le sait pas. On a l'impression qu'on a tout vu, tout entendu. C'est pourquoi nous refusons de regarder le futur. Nous sommes dans un présent instantanéiste. Et Max Gallo, évoquant un certain nombre d'événements, comme par exemple le 11 septembre, etc., ou d'autres événements, quelque chose se passe, un miracle de l'histoire advient, quelque chose se passe, on n'avait pas prévu. Et je pense qu'il faut regarder l'histoire aussi sous cet angle de la surprise permanente. C'est-à-dire que nous avons lu l'histoire comme une sorte de loi montante, d'une nécessité que tout vers un progrès. En fait, il y a beaucoup d'accidents. Il y a beaucoup de surprises. Il y a des hommes qui, à certains moments, interviennent dans l'histoire. Des hommes et des femmes de grande stature qui, tout à coup, sauvent une situation perdue. Donc, il faut relire l'histoire de façon contingente, modeste, non pas simplement comme si elle était une sorte de nécessité. Nous avons perdu cela. Mais nous sommes encore capables de surprises, oui ou non? C'est la question que nous devons, à me semble-t-il, retenir de l'histoire. Car si l'histoire, bien lue, est celle des surprises, alors nous devons être capables aujourd'hui de commettre des surprises.
Et l'histoire nous permettra de retrouver notre identité?
Oui, sûrement, mais en comprenant bien que notre identité, elle a été faite par le respect des libertés, en tout cas en Occident. Il n'y a pas eu de fécondité sans respect de la liberté. Je crois quand même que l'Occident a fait confiance à la liberté humaine, à la liberté de création, parce que précisément, la liberté est toujours inscrite dans un appel reçu. Ça, c'est une des choses que nous pourrions développer dans d'autres circonstances, mais agir librement, c'est aussi répondre à des appels que suscite une réalité, voire le divin, et qu'il n'y a pas non plus de liberté ex nihilo. Mais la liberté doit être aussi une manière d'exprimer un besoin, de répondre à des appels, et à ce moment-là peut naître une nouvelle histoire, sans aucun doute.
Donc l'histoire, la liberté pour retrouver l'identité.
Exactement.
Merci Philippe, c'était le doyen Philippe Capelle-Dumont dans notre chronique Entre-temps, entre nous, partage de réflexions.